Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente
Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutrou, Stéphane Moller.
Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du métavers.
Bonjour Stéphane, effectivement, sujet dédié aujourd'hui à ce nouveau phénomène qui inonde la plage médiatique depuis maintenant quelques semaines.
Et oui, Thibaut Boutrou et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous. Alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining.
C'est ça Stéphane, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine à 19h20 pour l'émission Conseil de famille. Tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et en parallèle, on partage ici notre passion commune pour l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies.
Et oui, et chaque semaine, nous emmenons chacun de nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâcherons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces cryptos, de ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, deux parties dans cette émission. Un premier temps pendant lequel Thibaut et moi ferons le tour d'un concept. Aujourd'hui, nous allons expliquer le métavers. Et dans une seconde partie, nous allons accueillir notre invité grâce auquel nous allons essayer de comprendre et de donner vie à ce concept. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Guicourez, COO de Exclusible.
C'est ça, et on le rappelle, comme d'habitude, le but de cette émission n'est pas de délivrer quelconque conseil d'investissement. L'objectif de l'initiative, c'est vraiment de vous faire découvrir cet univers, pourquoi il nous passionne, pourquoi il est intéressant de s'y intéresser. Et pour ça, on va vous faire rencontrer, semaine après semaine, des porteurs de projets de cet écosystème, des entreprises, des applications concrètes, pour que vous puissiez mesurer pourquoi et comment ces technologies vont bouleverser finalement votre vie quotidienne, la société, et qu'on est en train d'assister à une réelle révolution en fait.
Et oui, la semaine dernière, nous avons parlé du minage, cette fameuse activité essentielle au bon fonctionnement, notamment du Bitcoin. Et cette semaine, changement de décor, nous allons nous plonger dans une nouvelle tendance qui anime la toile depuis quelque temps, le métavers. En deux mots, mais je vais te laisser la capacité de développer un tout petit peu plus, Thibaut, c'est quoi le métavers ?
Non, alors pour faire très simple, en fait, la définition, elle est dans le mot. Si on décompose le mot métaverse, méta, ça veut dire au-delà, et verse, ça symbolise l'univers. Donc littéralement, c'est au-delà de l'univers. En fait, si on veut faire très simple, le métaverse, c'est un monde virtuel et immersif, la notion d'immersion est hyper importante, qui se situe à la juste frontière en fait, entre le réel et le virtuel.
Alors, de mémoire, le concept même de métavers date pas d'hier. Je me souviens que dans les années 90, on en parlait déjà, mais à l'époque, ça n'intéressait personne, ou alors il y a eu des tentatives avortées de se plonger dans des métavers. Qu'est-ce qui a changé depuis ?
C'est ça. En fait, c'est même assez vieux. Hein. La première apparition du terme métavers, c'était il y a 30 ans. C'était en 1992. C'était à travers un roman, le samouraï virtuel de Neil Stephenson.
Et, vous rendez compte qu'il n'était pas né.
J'étais pas né, c'est vrai. J'étais même loin d'être né, en réalité. Il s'est passé quelques années entre-temps. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense, aujourd'hui, pourquoi ça revient sur la table et pourquoi avec autant de ferveur ? Parce que je pense qu'on a passé un cap sur le plan technologique. Aujourd'hui, l'être humain est en capacité technologiquement de proposer une expérience qui est plus poussée et qui correspond un petit peu plus à toutes ces utopies qui étaient proposées par les auteurs de science-fiction. Et donc, on arrive vraiment à quelque chose qui commence à ressembler à une immersion qui est intéressante pour les gens.
Alors, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, le métavers, ce n'est pas une technologie, c'est plutôt une combinaison de plusieurs écosystèmes, une réalité virtuelle, une réalité augmentée, l'intelligence artificielle, le gaming fait beaucoup appel au métavers. Et en fait, c'est tout cet assemblage, notamment, qui permet de se projeter dans les métavers.
C'est ça. Le métavers, c'est finalement un pulse géant. Et la blockchain et les crypto-monnaies apportent en quelque sorte la pièce qui manquait à ce puzzle pour vraiment le matérialiser et lui faire passer un cap. La crypto, par exemple, apporte toute une dimension économique qui va servir à cet environnement. La blockchain permet de lier les utilisateurs avec la confiance. Des concepts comme les NFT permettent de développer la notion de propriété dans le métaverse. Donc on a tout ça en fait qui est arrivé il y a quelques années, qui permet de compléter en fait le schéma et de rendre vraiment ça un petit peu plus concret.
Et donc c'est tous ces arguments qui permettent à des grandes marques, des grandes chaînes, d'aller en fait se projetés dans ces univers virtuels et prolonger leur existence dans cet univers.
C'est ça, c'est ça. Et donc dans la pratique, c'est ça. Après, les faits, c'est que c'est encore, on est encore au balbutiement. Donc il se passe beaucoup de choses. Les marques matérialisent de l'intérêt pour tout ça. Mais la réalité, c'est que comment y aller, de quelle manière, ça, c'est encore très flou. Et donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est là où il va y avoir un gros enjeu pour les marques. Comment y aller correctement et comment se poser les bonnes questions.
Alors c'est passionnant, hein, mais c'est aussi effrayant d'imaginer que nous allons passer une partie de nos vies immergés dans des mondes virtuels dans lesquels on va se projeter au travers d'un avatar. On reviendra sur tous ces termes et ces définitions après. Donc en fait, on va projeter dans ces univers des images de nous-mêmes. Imaginons une salle de conférence de demain pour voir nos interlocuteurs. On ne regardera plus un écran, mais on va porter des masques de réalité virtuelle. Et en fait, on aura le sentiment que nos interlocuteurs sont comme aujourd'hui assis aux mêmes tables que nous, sauf qu'on ne sera pas réellement autour de ces tables. On aura des projections de nous-mêmes autour de ces tables. Les vêtements que nous porterons, les objets que nous aurons seront des NFT que nous aurons, donc des objets que nous, dont nous serons propriétaires, mais qu'on aura acquis, acheté dans ces métavers. C'est en même temps absolument passionnant, mais un peu effrayant quand même, hein. En fait, ce sont des véritables mondes parallèles qui se développent. Donc, vous écoutez Parlons Crypto sur Sud Radio et dans un instant, on va rencontrer Pierre Guigourez, COO de Exclusible, qui est une plateforme digitale qui, justement, accompagne ces grandes marques dans leur stratégie blockchain.
Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutrou, Stéphane Moller.
Aujourd'hui, nous parlons donc métavers dans cette seconde partie de Parlons Crypto sur Sud Radio. Nous parlons métavers avec Thibaut Boutrou, mon acolyte chaque semaine, mais aussi avec notre invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Guigourez, COO de Exclusible. Donc, blockchain, bitcoin, mining, finances décentralisées, NFT et aujourd'hui, métavers. Ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Aujourd'hui, nous recevons donc Pierre Guigourez de Exclusible, une société qui a pour vocation à accompagner les marques pour mieux appréhender et comprendre ce nouvel univers. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Pierre, est-ce que tu peux rapidement nous réexpliquer ce que sont les métavers ?
Oui, bah écoute, je pense que vous avez tous les deux apporté des éléments de définition et c'est intéressant parce que finalement, on voit bien dans les définitions que vous avez données que c'est très protéiforme. C'est très, très protéiforme. On peut dire que c'est un monde virtuel, on peut dire que c'est immersif, on peut dire que c'est la réalité virtuelle, c'est la réalité augmentée. Ça peut être aussi simplement passer beaucoup, beaucoup de temps sur Discord, sur les réseaux sociaux. Souvent, quand on pose la question, notamment dans les échanges avec des marques, par exemple, on a cette réponse de dire que c'est pas tant un endroit ou une techno ou un outil, c'est un moment dans nos civilisations où nos vies sociales digitales vont finalement prendre une valeur au moins aussi importante que dans notre vie physique. Ça, c'est quelque chose qui existe un petit peu déjà, finalement, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, ce n'est pas révolutionnaire. Mais là où c'est vraiment, ça prend une ampleur inédite, c'est quand on croise ça avec le Web3 et les notions de propriété, de partie prenante et non plus d'utilisateur. Enfin, je pense qu'on pourra y revenir, mais c'est une explosion cambrienne, vraiment.
On va, c'est marrant, on a déjà entendu le terme ici dans cette émission. On reviendra tout à l'heure sur la définition de ce qu'on définit comme étant le Web 3.0. C'est très, très clair. Tu es donc CEO de Exclusible. Comment on en arrive là ? C'est quoi ton parcours ?
J'ai un parcours entre guillemets un peu classique pour quelqu'un qui a travaillé dans l'entreprise. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil pendant assez longtemps. J'avais créé une première boîte par le passé dans le domaine de la culture. Et finalement, en fait, je suis tombé à la faveur des confinements, du Covid, qui nous a forcés à rester chez nous et à passer peut-être plus de temps qu'avant devant les écrans, de tomber un petit peu dans ce terrier des NFT. Davantage que les cryptos, dans mon cas, ce n'était pas forcément les sujets de trading, de finances centralisées qui m'ont attiré. C'est vraiment cette notion de NFT, de propriété, d'unicité, qui m'avait déjà un peu fasciné à l'époque avec le Bitcoin, 21 millions, aucun de plus. Déjà, je trouvais ça absolument incroyable comme capacité de pouvoir fixer ça dans du code et que tout le monde s'accorde à dire que oui, c'est la vérité. les NFT, finalement, c'est une extension incroyable de cette découverte que le Bitcoin a fait. Et c'est ce qui m'a amené, voilà, depuis aujourd'hui presque un an et demi, à rentrer dans les communautés, à passer du temps auprès des collectionneurs, et puis finalement monter ce projet depuis 6 mois.
Alors, juste pour redéfinir les choses, tu as cité plusieurs fois le mot de NFT. C'est quoi un NFT ?
Donc voilà, jeton non fungible, non fungible token. Et une fois qu'on a dit ça, souvent je prends 3 notions pour essayer d'expliciter. Il y a la notion de propriété, c'est-à-dire qu'un NFT est la propriété d'une personne, ou plutôt d'un wallet, une seule. C'est impossible d'avoir 2 personnes qui sont propriétaires d'un seul NFT. Et déjà ça en soi, ça crée une énorme différence par rapport au web classique, où par exemple un artiste fait une œuvre, la met sur Internet, n'importe qui peut copier-coller. Les 2 JPEG, les 2 fichiers numériques sont identiques, il n'y a pas de propriété vraiment qui est ancrée. Et le NFT, voilà, permet cette propriété. Le deuxième élément super important, c'est la provenance. C'est-à-dire qu'on peut remonter, grâce à la propriété des blockchains, d'être un grand registre distribué, accessible à tous, ouvert, infalsifiable. On peut toujours remonter à la source. On sait qui a émis ce NFT. On peut donc savoir si c'est oui, effectivement, c'est bien l'artiste qui prétend être l'auteur de ce NFT qu'il a émis. Ou bien non, en fait, c'est quelqu'un qui essaie de prendre son apparence, son nom. Mais voilà, la blockchain ne ment pas. Donc, provenance. Et dernièrement, c'est la notion de rareté. Et c'est ce que j'ai mentionné avec les 21 millions du Bitcoin. Hein, c'est qu'un NFT peut, par les, disons, les paramètres qu'on va rentrer dans le code, peut être limité à un seul, 10, 20, 30, à la faveur de l'artiste ou du créateur ou de la marque qui les a fait. Et c'est cette notion de rareté et cet engagement sur le fait qu'il n'y aura jamais plus de tant tokens de ce type-là qui en fait, évidemment, toute la valeur pour les collectionneurs.
Et du coup, chez Exclusives, c'est quoi votre métier concrètement, si tu peux réexpliquer ce que c'est en quelques mots?
Oui, bien sûr. Du coup, on aide vraiment les marques, et en particulier les marques du luxe, à faire leur premier pas dans le Web3, en fait. Hein. On les accompagne dès le début des réflexions sur les concepts, sur le design, sur la réalisation, la production des assets graphiques ou vidéo ou audio qui vont composer ce NFT, jusqu'à le fait de coder des smart contracts et de le distribuer sur une plateforme. On a une communauté aujourd'hui qui est extrêmement active, une trentaine de milliers de personnes à peu près, des personnes qui possèdent aussi des tokens de notre collection Exclusible Alpha qui leur donnent le droit d'être les mieux placés pour pouvoir minter nos NFT. Donc c'est un petit peu de ça qu'on a constitué.
Minter,
tu as raison. J'ai un petit anglicisme qui m'a échappé. Donc c'est l'acte vraiment de créer un NFT en interagissant avec un smart contract.
D'accord. Alors en fait, effectivement, pour rebondir sur tout ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui déclarent s'intéresser aux NFT, qui déclarent s'implanter dans les métavers. On les a cités, on va les reciter, Visa, Mastercard, Carrefour, Adidas, Nike. En fait, beaucoup de géants de ce monde commencent à s'implanter dans les métavers. Donc beaucoup d'annonces. C'est quoi? C'est uniquement... Quelle est leur motivation, en fait?
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de motivation aujourd'hui. On en parlait avant l'émission. L'année 2021 a été une année de prise de conscience accélérée, incroyable du Web3 et du Metaverse. Donc, les marques sont un petit peu forcées de se positionner, ou moins d'explorer, d'expérimenter avec cette matière. Donc, il y a une part de curiosité pure, disons, en venant nous voir et en essayant de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en faire. Néanmoins, je pense que parmi toutes ces marques qui essayent les choses, on en aura une grande proportion qui vont réaliser qu'en fait, c'est pas juste de la hype, c'est pas juste quelque chose comme ça qui est apparu en 2021, qui va disparaître aussi vite. C'est en fait un nouveau canal de distribution, c'est un nouveau canal d'expression, c'est un moyen de toucher une communauté différente de leur audience traditionnelle. Et puis si on pousse le trait jusqu'à la notion de métaverse, c'est du fait que voilà, nos vies digitales vont prendre de plus en plus de valeur à nos yeux, finalement comment est-ce qu'on parle à ces personnes-là qui passent plus de temps dans le métaverse que dans la vie physique?
C'est absolument passionnant. En fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que demain j'aurai 2 vies, faute d'en avoir 7, une vie dans un univers réel où là je vais rentrer dans une boutique, acheter des chaussures qu'on a déjà citées, les mettre à mes pieds et pouvoir me promener dans la rue avec, mais que pour avoir une existence dans ces nouveaux réseaux sociaux, dans ces nouveaux métavers, il faudra que je puisse aller dans le même genre de boutique et que j'achète les mêmes genres de chaussures pour pouvoir les faire porter à mon avatar. Je vais devenir absolument complètement schizophrène.
Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'interroge, c'est aujourd'hui, toutes les marques veulent aller, se posent au moins toute la question, est-ce que je dois y aller, oui, non, comment, pourquoi. Les marques qui viennent à toi aujourd'hui, elles sont à quel niveau d'éducation, de compréhension de ce phénomène? Est-ce que tu en as qui ont des idées bien précises? Est-ce que tu en as qui te disent, ok, mon concurrent le fait, je dois le faire, ça doit se passer vite? Dans quel état elles sont en fait aujourd'hui les marques et les entreprises de manière plus générale?
C'est très hétérogène. Je pense que tu as bien résumé les différents types de situations qu'on rencontre. Effectivement, de marques qui, pour certaines, sont tout au début de leur réflexion et en pleine découverte, disons, avec quelques points de repère. Effectivement, souvent, c'est de la concurrence. Regardez, bah, effectivement, telle marque sur laquelle, qui est mon concurrent, a fait quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de similaire, etc. Parfois, ça a du sens. Parfois, ça n'en a pas. Et puis, des marques qui, à l'autre bout du spectre, vont être, au contraire, extrêmement matures, vont parfois avoir des fonctions dans leur organisation qui sont dédiées. Et on a des head of metaverse face à nous parfois, ce qui était absolument inimaginable il y a 6 mois, head of NFTs, etc. Donc je pense que c'est un mouvement qui est encore à son début et ça va se structurer de plus en plus du côté des marques, je pense.
Et tu en as beaucoup qui viennent et qui ont au départ sont plus dans une configuration où on doit le faire parce que tout le monde le fait et qui au final ont cette réflexion qui évolue au fur et à mesure qu'elles comprennent le phénomène, où elles restent sur leur idée de base de dire bon, faut juste y aller parce que là c'est la hype et faut pas manquer ce virage là, où il y en a, ils comprennent vraiment qu'il y a un truc qui change là en fait.
Ben, je pense qu'en fait, c'est-à-dire que tu as un petit peu de tout, mais je pense qu'in fine, la grande majorité des marques se retrouvent dans la deuxième catégorie que tu as mentionnée, c'est-à-dire qu'elles entrent effectivement, elles sont attirées par le métaverse par exemple, par effectivement toute l'activité médiatique qu'il y a autour de ça. Et en fait, au fil des discussions et finalement du travail de pédagogie qu'on fait aussi de notre côté, de déconstruction de toutes ces notions, de réflexion sur des concepts concrets avec elles, d'apport aussi de notre expertise et de connaissances en tant que collectionneur. On est tous des fans de NFT dans l'équipe, on sait de quoi on parle, en fait, on a envie de créer des projets qu'on aimerait avoir dans nos collections, en fait, tout simplement. Finalement, c'est au fil de ces discussions-là que les marques peuvent aussi avoir ce moment, en fait, il y a beaucoup plus que quelques mots-clés qu'on retrouve dans la presse. En fait, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus prometteur aussi sur l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que marque, finalement, elles peuvent se projeter beaucoup plus, finalement, après ces premiers rounds de discussion.
C'est quoi l'économie du métavers? Qu'est-ce que ça coûte pour rentrer dans cet univers? Et indépendamment du bénéfice en termes d'image que je peux en sortir, qu'est-ce que je peux en tirer comme bénéfice économique? Est-ce que c'est chiffrable et quantifiable dès aujourd'hui? Si demain, mon entreprise, je veux la projeter dans les métavers, qu'est-ce que ça va me coûter et qu'est-ce que ça peut me rapporter?
Alors aujourd'hui, finalement, le métaverse, si on est vraiment dans les métaverses Web 3, hein, je laisse de côté la définition qui pourrait s'appliquer à des Fortnite, Roblox, etc.
On n'a pas défini le Web 3, Thibaut, en deux phrases avant, parce que c'est une notion qui revient souvent dans notre discours. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le Web 3.0?
Ouais, en deux mots, on va essayer. Pour faire de manière chronologique, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Le Web 1, c'était la capacité à collecter de l'information, à lire de l'information sur le web. L'évolution du Web 2, ça a été la capacité à créer du contenu finalement sur ce web, avec notamment le développement des réseaux sociaux qui ont donné la parole aux gens, et aussi une centralisation qui s'est créée avec la collecte des data par l'émergence des GAFA, etc. Et le Web 3, finalement, c'est un peu une évolution et un retour aux sources où on va remettre une décentralisation pour remettre en fait l'utilisateur au cœur du système. Et ça, c'est rendu possible notamment par cette notion de propriété, parce que les gens vont pouvoir de nouveau se réapproprier leurs données, savoir à qui les communiquent, comment ils les sécurisent, etc., etc. Donc pour moi, la définition du Web3 aujourd'hui, elle vient avec cette notion de propriété et de décentralisation. Après, on est encore en train de dessiner ce qu'est le Web3, donc c'est hyper difficile de donner une définition très précise qui rentre dans les...
Excuse-moi Pierre de t'avoir interrompu, mais c'était important d'en passer par là. Donc revenons aux bénéfices économiques de métavers.
Oui, effectivement. Donc le bénéfice concret pour une entreprise aujourd'hui, ça va être beaucoup un sujet de visibilité. Ça va être un sujet de se dire...
Donc c'est l'image.
Voilà, il y a un enjeu d'image sur le métaverse, de se dire ce monde finalement qui est encore relativement vierge, qui est peuplé de premiers utilisateurs qui sont souvent des pionniers un petit peu, des personnes qui étaient très curieuses de Decentraland, curieuses de Sandbox, qui ont commencé à construire des choses.
Qui sont Decentraland et Sandbox, des entreprises qui ont créé des mondes virtuels dans lesquels on peut aller se promener. Donc aujourd'hui, on peut acheter un terrain sur Decentraland, on peut y construire une maison, on peut y acheter une voiture, on peut la mettre dans son garage, et c'est la même chose sur Sandbox. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors oui, effectivement, c'est après dans les détails. La voiture, par exemple, c'est pas encore possible. La maison, c'est possible. Enfin, il y a des petits niveaux de détails, bien sûr.
On y viendra sur ça.
C'est ça. Mais effectivement, c'est l'idée, et c'est en ça que c'est très différent de Metaverse, qui serait des jeux vidéo, par exemple, dans lesquels l'éditeur est finalement contrôle tout. Là, effectivement, grâce au Web3, les utilisateurs sont des parties prenantes et sont donc propriétaires en partie du monde dans lequel ils interagissent. Et la différence entre Sandbox et Decentraland, alors Sandbox est plus ancien, ça a bien 2-3 années d'avance, disons, parce que le monde est déjà ouvert.
Un millénaire.
Voilà, c'est ça. Mais néanmoins, c'est des choses qui sont très différentes. Sandbox, ça ressemble un petit peu à Minecraft. C'est un style qu'on appelle le voxel design, donc c'est assez pixelisé. Mais c'est volontaire et ça donne une esthétique vraiment particulière et super sympa à ce monde-là. Alors que Decentraland, voilà, c'est plus un monde en 3D, disons. Et il y avait quelques différences. Sandbox est très axé sur le jeu. Decentraland est plus axé sur la présence et l'expérience. Il y a des niveaux de... Voilà.
Et si j'ai acheté un objet dans l'un, est-ce que je peux le transposer dans l'autre ?
Alors, aujourd'hui, pas forcément. L'apparence d'un objet répond à des contraintes qui sont fixées par ces univers-là. Voilà, donc les voxels, par exemple, dans Sandbox. Hein. Donc un même objet ne va pas forcément se retrouver, en tout cas ça ne sera pas le même token. Mais là où ça devient super intéressant, et c'est là d'ailleurs nous aussi on essaie de jouer un rôle, c'est de créer ces ponts justement entre ces différents métaverses et de se dire que si demain une marque de luxe décide de produire une collection de wearables, donc de vêtements, de casquettes, de chaussures, etc., en vocation à être portée dans le métaverse, ils vont pouvoir émettre à la base un NFT, un token, et c'est ce token qui, pour les propriétaires, pourra être transformé, être unlocké, déverrouillé pour donner corps en fait à des wearables qui sont concrètement utilisables dans les différents métaverses. Je pense qu'on va voir de plus en plus apparaître ces cas d'usage de ponts en fait entre les différents métaverses.
C'est absolument passionnant. Donc, si on résume, moi je suis une grande marque, je crée une collection d'objets qui est que je vais pouvoir vendre dans les métaverses. Exclusible va s'occuper de définir ma collection, la créer, la mettre à disposition d'une communauté dans les métavers, et derrière, éventuellement, de s'occuper de faire des ponts entre ces différents métavers pour que la projection que je fais de moi avec ces NFT dans les différents métavers soit la plus homogène possible. C'est ça le boulot que vous faites aujourd'hui.
C'est ça, c'est en grande partie ça. Après, il faut bien se dire que le NFT, c'est tellement versatile en fait comme objet que se dire que le NFT finalement doit servir à apparaître dans le métaverse, c'est un cas d'usage. Le NFT,
c'est déjà réducteur.
C'est en tout cas un cas d'usage qui est super intéressant, qui est d'ailleurs aujourd'hui assez marginal finalement. Le cas d'usage principal serait plutôt l'usage de la collection, de se dire que tu as un NFT qui a de la valeur en soi pour les raisons qu'on a évoquées, de propriété, d'unicité, de rareté, etc. Et l'intérêt, c'est de se dire, voilà, je possède ce NFT.
Alors, ce que je comprends pas, c'est que... Moi, ce que je collectionne, mais ce que mes enfants collectionnent, c'est les cartes Pokémon. Bon, donc demain, on pourrait parfaitement imaginer qu'il y ait des cartes Pokémon dans les métavers. Mais l'intérêt, il est de pouvoir les montrer, de les échanger. Si c'est juste pour les garder dans un coffre, dans mon wallet, qui est assimilable à un coffre, et de ne pas pouvoir montrer ou échanger ma collection, à quoi ça sert ?
Mais je pense que c'est exactement ça. C'est exactement le cas des cartes Pokémon, le cas des philatélistes, le cas des personnes qui ont un attrait particulier pour des collections. C'est de pouvoir effectivement échanger avec des personnes qui partagent cette même passion. Moi, personnellement, c'est comme ça aussi que j'ai démarré. J'étais super intéressé par certaines collections de NFT il y a un an. Je suis rentré dans le Discord, j'ai trouvé des gens qui étaient passionnés par ça aussi. On s'est mis à échanger, et puis voilà.
Discord ?
Discord, c'est un réseau social qui s'apparente à... qui n'a pas vraiment d'équivalent en fait aujourd'hui par rapport à d'autres plateformes qu'on connaît, mais ça crée des communautés avec des canaux, on peut échanger toute la journée en temps réel à l'écrit, mais aussi avec la voix sur des sujets passionnants. Ça, à la base, c'était issu du monde du gaming plutôt, et voilà, maintenant ça s'est vraiment étendu au monde des NFT, des cryptos.
Alors, en fait, là où dans un magasin classique, mes clients sont les gens qui passent devant la boutique, la particularité de ces univers virtuels, c'est qu'il faut aller créer des communautés au travers d'outils comme Discord, Instagram, TikTok, etc., etc., qui vont nous permettre, en fait, de commercialiser ces NFT. Et donc, ces communautés sont tout aussi virtuelles que ne sont les métavers en eux-mêmes.
Ouais, je pense que tu pointes du doigt un sujet super important, notamment pour les marques qui ont, évidemment, elles ne sont pas du tout étrangères à la notion de marketing, elles savent très bien comment vendre leurs produits, mais elles savent le vendre à des audiences, à des publics qui ne sont pas les mêmes que ceux des NFT. Et donc, effectivement, ça passe sur Discord, ça passe sur Twitter, ça passe sur TikTok, c'est des façons de faire différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de résoudre un problème pour eux, c'est comment on fait pour atteindre ces communautés.
Il y a une notion de frontière aussi qui est intéressante là-dedans, c'est que de par nature, le métaverse et tous ces univers-là n'ont pas de frontières et permettent de connecter aussi des gens qui vont être à l'autre bout du monde et qui ne pourraient pas forcément se rencontrer sur un point physique. Donc ça donne une ouverture d'esprit et quelque chose de culturellement hyper intéressant.
C'est absolument passionnant. C'est vraiment un nouvel univers qui s'offre à nous. Et comme on l'a déjà dit souvent, c'est une espèce de convergence entre nos rêves les plus fous et nos pires cauchemars. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de se projeter dans des univers virtuels. On s'imagine déjà vivre dans des scaphandres et rentrer en interaction à distance avec d'autres gens qui sont dans d'autres scaphandres loin de chez nous pour partager nos collections de NFT. C'est un peu caricatural, mais finalement, c'est vers ça qu'on se dirige, non ?
Ah, je pense que c'est pas un cauchemar.
Moi, je suis pas hyper d'accord avec ça. Enfin, en fait, je comprends qu'on puisse avoir cette perception, mais si quelqu'un est plus à l'aise dans cette villa et dans cet univers-là, je vois pas où est le problème. En fait, c'est une question de perception de chacun. On a des sensibilités différentes en fonction des choses. Bah, il y a des gens qui seront très sensibles à ça et très intéressés, et ceux qui veulent rester uniquement dans le monde physique, ils pourront le faire. Et inversement, ceux qui veulent être uniquement dans le monde digital, ils pourront aussi l'être. Et ça, il y a pas de code ou de bonne réponse à ça.
C'était pas un jugement de valeur.
Ah non, mais
NFT, traçabilité des objets, gouvernance, économie des métavers, réattribution des richesses, tellement, tellement de thèmes à creuser pour nos prochaines émissions. Merci Pierre d'avoir accepté d'être notre invité dans Parlons Crypto. Merci de ta confiance. J'espère que nous aurons l'occasion de nous recevoir ici très bientôt. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets qui sont de plus en plus passionnants, je trouve, au fil de nos émissions. On rentre dans les détails de ces économies. On se retrouve tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, auxquelles vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut.
À bientôt.
Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutrou, Stéphane Moller.
Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.